Bonsoir. Bon, je me présente rapidement, mais par pure politesse, je m'appelle Nicolas Patin, je suis maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, donc je suis la puissance invitante, mais la vraie puissance invitante, c'est donc Mola, comme d'habitude, qu'on remercie pour ses conférences toujours très intéressantes. Et aujourd'hui, donc, on accueille le professeur, désormais, Johan Chapoutot, qui est professeur à la Sorbonne, après avoir été maître de conférence à Grenoble, et qui est... un des spécialistes, le spécialiste, c'est toi qui choisis, du national-socialisme en France, selon un biais que certains d'entre vous, pour les discussions que j'ai déjà eues, connaissent bien et que d'autres vont découvrir aujourd'hui, un biais qui est celui de l'analyse de, alors on ne peut pas dire idéologie, on va en parler, mais de la vision du monde nazi, qui est une démarche qui soulève beaucoup d'interrogations et qui a apporté beaucoup de choses nouvelles à notre perception de ce régime criminel. Alors pour ce qui est de la bibliographie, finalement, on est face quasiment à une trilogie. Le premier livre aurait été ta thèse de doctorat, à savoir le nazisme et l'Antiquité. La vision nazie de l'Antiquité, qui est parue en 2008 et rééditée chez Kadri, je vous le trouverai derrière. Un deuxième volume qui aurait été, il y a 3 ans maintenant, ça passe vite, La loi du sang, en 2000, donc Penser et agir en Asie, qui est un programme quand même qu'on voit déjà assez difficile, qui est paru en 2014 chez Gallimard. Et puis ce dernier ouvrage, La révolution culturelle nazie, qui est tout nouveau de cette année, de la même manière chez Gallimard. Alors, on ne va pas procéder de manière universitaire avec voilà, un speech de 45 minutes que vous allez benoîtement écouter. Je vais plutôt poser un certain nombre de questions, une série de questions, auquel tu vas répondre, vu le timing, en 5 minutes par question, s'il te plaît, si tu me l'accordes. Et puis ensuite, sentez-vous évidemment autorisé à poser des questions. On aura du temps pour ça, une vingtaine, 25 minutes. Donc sentez-vous vraiment autorisé à poser toutes les questions, même les plus bêtes, puisque, comme disait ma professeure de CE2, Madame Carlier, c'est dans l'erreur qu'on progresse. Pour introduire la thématique et arriver assez rapidement dans notre sujet, avant de poser la première question, ou finalement en posant d'ailleurs cette première question, dans une très longue tradition, depuis 1945, si ce n'est même avant cela, on a présenté les nazis comme des fous, comme des pervers, comme des déclassés, dans une stratégie de délégitimation, dans une stratégie de mise en déviance qui nous permettait finalement de nous rassurer. Le nazi, c'est l'autre. Le nazi, si vous avez lu Dino Buzzati, c'est le petit Hitler qui se fait piquer ses billes au bac à sable et qui en déduit une haine pour l'humanité. La déviance, c'est dans Robert Merle, La mort est mon métier, j'ai été éduqué de la mauvaise manière, donc je deviens le Rudolf Höss, le chef du camp de Auschwitz. Bon. Et on s'est habitué finalement à ce ronron. Quand je dis c'est une longue tradition, elle est toujours là. Réouvrez le prix Goncourt de 2006, Jonathan Little. Les bienveillantes, dont Linky Pete dit « Je suis comme vous, je suis un bourreau normal ». Mais enfin bon, il tue sa famille, il couche avec sa sœur. Enfin bon, il y a quand même des petits problèmes qui rejettent en fait l'ensemble de la pensée nazie dans l'ailleurs, dans quelque chose dont on reste protégé. Toute la démarche de Johan, et donc c'est ma première question, ce que tu as essayé de montrer, c'est que finalement, on a essayé de rejeter le nazisme dans la perversion par l'individu, dans l'idée que pour ce qui est des sociétés, non plus seulement du point de vue individuel, mais du point de vue d'un État qui était, ou d'un pays qui est l'Allemagne, on a rejeté le problème du nazisme dans la voie particulière allemande, le Sonderweg, comme si nous avions une perspective de modernité calme, en Italie bien évidemment, c'est une évidence, en France aussi, et que l'Allemagne avait dévié, tout comme Hitler avec ses crises hystériques, etc. Et donc, finalement, il y a une impossibilité à réfléchir sur la pensée nazie. Alors j'aimerais, c'est la première question qui est peut-être la plus difficile, que à grands traits, avec cette trilogie que tu as faite dans quasiment les 10 dernières années, tu nous résumes finalement ce que tu as montré, que tu as été un des premiers à montrer, c'est-à-dire cette cosmogonie. Comment elle fonctionne, cette pensée qui existe? Comment est-ce qu'il y a une réelle vision du monde qui permet ensuite l'acte criminel?
Écoute, merci Nicolas pour cette présentation et pour cette question. Alors donc tu m'as donné un semestre pour répondre à chacune des questions.
C'est ça.
Voilà, donc,
de toute façon, il fait trop chaud.
Donc. On a le temps, on a 24 heures pour chaque réponse, soit un séminaire de master. Alors, ce que tu as dit est très juste. Depuis 1945, on a toujours rejeté, et encore aujourd'hui, hein, dans l'espace public, dans ce que l'on dit du nazisme, on a toujours rejeté le nazisme dans le para-humain ou l'infra-humain. La folie, la barbarie, la maladie, voire une forme de théologie du mal absolu, hein, pour les plus allumés qui sévissent parfois sur les réseaux sociaux et qui vous écrivent des lettres assez poétiques, hein, sur ce que vous n'avez pas compris du phénomène nazi. En fait, Hitler était Belzébuth ou Heydrich était un succube. J'ai appris plein de choses par le courrier des lecteurs. Donc si on laisse à l'écart ces explications qui n'en sont pas, ces gens-là n'étaient pas fous. Des fous, il y en avait, mais il y en avait autant, c'est-à-dire aussi peu que dans toute communauté humaine, que ce soit une salle des profs, cette salle, ou je sais pas moi, une assemblée de magistrats, hein, il y a 3-5% de dingues, ce qui laisse 95-97% de gens sous la juridiction de l'historien, et non pas du psychiatre. Donc ils n'étaient pas fous. Barbare, c'est totalement tautologique, hein. La barbarie qui explique l'acte barbare, on va pas très loin avec ça. Puis par ailleurs, barbarie pour un pays qui était le plus alphabétisé au monde et qui était la patrie, c'est des banalités, hein, je rappelle là, des prix Nobel, des poètes, des penseurs, des musiciens, on repassera. Quant à la théologie du mal absolu, eh bien on laissera ça à qui de droit, mais nous ça nous intéresse assez peu quand on veut faire de l'histoire. Alors, ce rejet du nazi dans le para ou l'infra-humain, évidemment, nous sert à nous, hein, à nous rassurer sur notre propre humanité. Elle nous sert également à nous rassurer sur le récit que nous nous faisons de, on va dire, du procès de civilisation, pour aller vite, hein, comme le disait Norbert Elias, ce procès de civilisation que Norbert Elias, d'ailleurs, lui-même contemporain du nazisme, lui-même ancien de la Grande Guerre, il ne parle ni de l'une ni de l'autre, hein, dans ses œuvres, il ne parle ni de la Grande Guerre ni du nazisme. Quand il parle du processus de civilisation, c'est assez intéressant. Mais Norbert Elias, donc, il fixe un peu le canon, si vous voulez, déjà balbutié par les Lumières. Sorti de la nuit médiévale, nous nous acheminons vers plus de paix, plus d'humanité, etc. Bon. Et dans ce récit-là, le nazisme ne peut être qu'une exception qui, comme toute exception, vient confirmer la règle. Et nous n'avons rien à faire avec cette exception. Alors, elle est exceptionnelle au sens de sa germanité idiosyncrasique, hein, tu l'as rappelé, le Sonderweg, le chemin particulier. L'Allemagne dévie dans les années 1840-1870 d'une espèce de schéma de modernisation qu'empruntent la France et la Grande-Bretagne de manière paradigmatique, c'est-à-dire une forme de coexistence ou de concomitance du progrès scientifique et technique et du progrès politique et moral, les Allemands, eux, restant en deçà, arriérés au sens littéral du terme, du point de vue politique et moral, et ça donne le wilhelminisme, la Première Guerre mondiale, puis l'échec de Weimar, et évidemment le nazisme. On essaie de rabattre le nazisme sur une forme de spécificité allemande. Après tout, les Allemands l'ont bien cherché, hein, depuis 1806, 1808, 1813, avec le propre récit qu'ils ont formulé de leur identité supposée face à l'Ouest, face aux Latins, face à Napoléon, face aux Français, etc. On essaie d'exclure donc le nazisme de notre périmètre de réflexion pour nous rassurer sur effectivement notre propre humanité. Alors il y a d'autres manières, hein, de s'occuper du nazisme pour essayer de lui donner sens, d'en rendre raison. Soit on voit le nazi comme un criminel par excès, avec la folie, la barbarie, etc. Soit on le voit comme un criminel par défaut, hein, ça c'est l'explication très paradoxale et intéressante d'Anna Arendt quand elle voit Eichmann à Jérusalem, hein, elle voit non pas un criminel par excès de violence, excès de mal, excès de malignité, elle y voit un criminel par défaut, défaut d'humanité, défaut d'empathie, défaut de pensée, défaut d'humour, défaut, etc. Ça donne la banalité du mal qui est extrêmement contestable dans le cas d'Eichmann et dans le cas des criminels nazis. Alors, une fois qu'on a éliminé tout ça, hein, les historiens commencent par faire un grand ménage du sens commun, on va dire, des lieux communs, il nous reste à nous poser une question d'historien. Une question d'historien, c'est-à-dire une question de quelqu'un qui pratique une science humaine, avec tout ce que le terme de science peut revêtir de problématique en l'espèce. Hein. Une science humaine, c'est-à-dire une discipline de pensée, au sens fort du mot discipline, qui considère que le sujet connaissant, c'est-à-dire moi, vous, hein, celui qui lit, celui qui recherche, celui qui écrit, a face à lui des êtres humains comme lui. Alors, c'est très facile à bien des égards et dans bien des cas. Si vous faites l'histoire du syndicalisme en France, eh bien, vous avez une forme d'empathie avec votre objet, avec votre sujet, vous communiquez avec lui. Lorsque vous vous intéressez à des gens comme les nazis, dont les crimes dépassent l'entendement. Hein. C'est vraiment, il faut le répéter, même celui qui serait le plus immunisé contre cela, c'est-à-dire nous, hein, qui pratiquons la criminalité, nous n'en revenons pas de ce que nous voyons, de ce que nous découvrons. Hein. On a beaucoup parlé ces derniers temps, pour des raisons de propagande politique, d'Oradour sur Glane. Eh bien, il y en a eu une dizaine en France, d'Oradour sur Glane. Vous en avez 500 dans les Balkans. Et vous en avez 5000 en Union soviétique. 5000 oradours sur Glane. Un oradour tous les deux jours, pendant la durée de l'occupation allemande à l'Est. Voilà, ça donne peut-être une idée hein, de l'intensité criminelle, dévastatrice du projet nazi et de sa radicalisation. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, malgré tout, donc, voilà, nous avons affaire à des êtres humains, et ça c'est quand même difficile à postuler, mais nous devons prendre en compte cette dimension-là. Cette dimension qui veut que, si les actes de ces gens-là n'ont pas de sens à mes yeux, et n'ont pas de valeur à mes yeux, et heureusement, hein, parce que je suis comme vous, un citoyen français de 2017, qui a grandi dans un univers humaniste et universaliste, bon, et qui ne comprend pas, hein, a priori, ce déchaînement, qui ne comprend pas 5000 oradours sur le front de l'Est, qui n'en comprend pas même un seul en France, si vous voulez. Bon. Et c'est normal et c'est heureux. Eh bien, nous devons faire l'hypothèse que pour les acteurs de ces crimes-là, pour les acteurs de ces actes-là, ces actes ont un sens et ont une valeur. Une toute petite comparaison pour vous donner la mesure de cette démarche. Prenez les travaux de Michel Pastoureau, un historien médiéviste absolument fabuleux, historien de la couleur, mais historien également, et c'est plus, moins connu, des procès d'animaux, figurez-vous. Je sais qu'il y a des magistrats dans la salle, et ils savent peut-être que jusqu'au XVIe siècle, en France, dans le droit français, on a jugé les animaux qui étaient censés être responsables de leurs actes. Alors c'est le fameux épisode étudié par Michel Pastoureau de la truie de Falaise, cette truie qui avait dévoré le visage et le bras d'un enfant, qu'il avait tué, qui a été arrêtée par le vicomte, représentant la justice du roi dans le vicomté de Falaise, qui a eu un avocat commis d'office, qui a été soumise à la question et qui a été soumise à un procès en bonne et due forme jusqu'à l'exécution finale qui s'est faite dans les formes, devant la totalité des cochons de la vicomté assemblée. Oui, puisque la peine de mort a une valeur d'exemple et de dissuasion, et la truie a été punie comme on aurait puni n'importe quel assassin. Elle avait mangé un bras, on lui a coupé une patte. Elle avait dévoré le visage de l'enfant, on lui a coupé le groin, et ensuite, donc, elle a été écartelée et brûlée en place publique, devant les cochons. Bon. Alors, vous avez d'autres exemples d'évêques qui excommunient des sauterelles, par exemple. Bon. Alors, tout ça nous fait sourire ou ça nous fait franchement rire, mais justement, ça ne faisait pas rire les contemporains, ça ne faisait pas rire les acteurs. Et c'est là la question de l'historien. Qu'est-ce qui fait que moi, ce qui me semble ridicule, ou atroce, ou inconcevable, est parfaitement normé, est parfaitement acquis, est parfaitement concevable pour les contemporains. Et d'où cette démarche, à la fois internaliste, puisque je me plonge dans la culture nazie, ce qui n'est pas sans risque d'ailleurs, et compréhensive, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre, de tout prendre, et pour essayer de voir, en explorant une littérature monstrueusement étendue, hein, pour la loi du sang et la révolution culturelle nazie, c'est 100 000 pages de sources. 100 000 pages de sources et une cinquantaine de films, documentaires et de fiction de l'époque. Donc je prends tout et j'essaie de voir, en essayant de décanter cette masse sémantique, cette masse de sens, j'essaie de voir quelles sont les coordonnées mentales des acteurs. Voilà. Dans quelles coordonnées mentales les actes des acteurs s'inscrivent-ils ? Quel est leur univers mental ? Autrement dit, quelle est leur vision du monde ? Hein, tu le disais tout à l'heure. Prenons là aussi le mot nazi au sérieux, Weltanschauung, vision du monde. D'ailleurs, ce n'est pas un mot nazi, hein, c'est un terme technique de la philosophie du 19e siècle, mais que les nazis ont récupéré comme bien d'autres choses. Mais quelle est leur vision du monde, c'est-à-dire leur manière de voir le monde, littéralement, leur postulat sur le temps, sur l'espace, sur l'être, sur l'individu, sur la communauté, etc., ou sur le groupe.
Bah tu vois, tu as réussi à résumer un certain nombre de choses, en tout cas de manière très rapide. Ce que tu montres, ce que moi je perçois dans tes livres, finalement, c'est l'importance centrale d'une forme de biologisation du politique, d'une forme, et je trouve que je vais faire de la pub hein, évidemment, c'est très bien dit dans le dernier livre, ce qui fait la différence, c'est la le fait que la vision du monde nazi se fonde sur une science, dit se fonder sur une science, mmh. et sur une pseudo-science, et la race envahit tout. La race envahit la philosophie, la race envahit le droit, la race envahit le lit, on va en parler, mmh. la procréation. Mmh. Et donc, peut-être dans la série de questions qui occupe aussi les chapitres de ce livre-là, si on postule, mais tu développeras, que c'est cette lecture raciale qui est le centre et le cœur de la conception du monde nazi, est-ce que du coup, on va voyager à travers voilà, ces entrées que tu as étudiées à travers ta trilogie ? Peut-être on pourrait commencer par ce qui est très intéressant, ce que tu dis de Platon et du stoïcisme. Et non pas de Platon et du stoïcisme en tant qu'eux-mêmes, mais de la relecture qu'en font les nazis. Et là, tu livres quelques pages qui sont vraiment très intéressantes sur, voilà, que devient Platon pour les nationaux-socialistes ? Et je te donne juste la parole juste après. C'est ça qui justifie d'ailleurs le titre du dernier ouvrage, « La révolution culturelle nazie ». Les nazis vont non seulement entreprendre d'établir la loi du sang dans le précédent ouvrage, régner, procréer, mais de refonder l'ensemble d'une pensée. Et donc en commençant, comme tu le dis, par celle de la philosophie grecque. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
D'accord. Alors, bon, la biologisation du politique, tu pointes évidemment quelque chose de nodal hein, et de fondamental. Je vais reprendre une formule qu'Hitler utilise à plusieurs reprises dans ses discours. Il dit, voilà, le national-socialisme, c'est de la biologie appliquée. Le national-socialisme, c'est la biologie appliquée. Il a une autre expression qui est « le national-socialisme, c'est de la raciologie appliquée » ou de l'anthropologie raciale appliquée. « Angewandte Biologie, angewandte Rassenkunde ». Et alors ça, c'est très important, c'est même fondamental. Et Himmler le développe très longuement dans ses discours. La lecture nazie de l'époque contemporaine et de l'histoire de manière générale, pour aller vite, c'est que la race germanique est victime d'ennemis qui veulent sa mort pour des raisons diverses et variées depuis 6000 ans. Hein. J'étais tombé sur un fascicule de formation historique de la SS intitulé « 6000 ans de haine raciale », 6000 ans de haine juive en l'occurrence, et 6000 ans de guerre raciale. Et les Germains n'ont jamais su se défendre, jamais. Le Germain, c'est le Siegfried de Fritz Lang dans les Nibelungen, c'est le grand couillon. Blond et musclé, mais jappant au milieu des bois, poursuivant son sanglier en bavant, heureux comme peut être heureux l'enfant dans la prime, le prime émerveillement de sa stupidité. Voilà le Germain tel qu'il est vu par les nazis. Supérieur, éminemment supérieur, créateur de culture, mais naïf, bené et dès lors victime. Incapable de concevoir la malignité, la méchanceté d'autrui, en l'occurrence notamment des juifs, mais aussi des slaves lorsqu'ils sont aux mains des juifs. Or, dans cette histoire tragique, les nazis ne se contentent pas de dire que tout est fichu et que la décadence, la dégénérescence sont inévitables, puisqu'intervient le 19e siècle. Et le 19e siècle, c'est le siècle de la libération de l'esprit et de la pensée. Le 19e siècle, c'est le siècle de la science. Et en l'occurrence, d'abord et avant tout, les sciences du vivant, biologie, médecine, sciences naturelles de manière générale, éthologie, génétique naissante, tout cela fascine l'œcumène scientifique de l'époque, et pas qu'en Allemagne. Et tout cela fascine les nazis qui participent de fait d'une forme de à la fois de naïveté, d'espoir scientiste, hein, très propre, on va dire, à l'Europe de la seconde moitié du 19e siècle, la première moitié du 20e siècle. Regardez l'effet Darwin, comme dirait Patrick Thor. L'effet Darwin, c'est cette espèce de vague herméneutique, comme ça, qui submerge l'Europe et l'Occident, puisque enfin, on a, grâce à Darwin, les clés du développement universel, avec la théorie de l'évolution des espèces, de la sélection naturelle. La biologie semble être la clé herméneutique pour tout comprendre, hein, pour décoder toute signification. Et en l'occurrence, pour les nazis, pour expliquer pourquoi le Germain est si malheureux, et pourquoi il est victime, et pourquoi il va mourir. Hein. Parce que le diagnostic nazi, c'est ça, dans les années 20. On va crever. On va crever. Hein. Tout nous pousse vers la mort. Nos ennemis se déchaînent depuis 6000 ans. Leur maîtrise technique a atteint un point culminant lors de la Grande Guerre. Une destructivité sans pareil. Par ailleurs, la Grande Guerre, le blocus qui a été imposé à l'Allemagne montre que nos ennemis ne veulent pas seulement détruire l'Allemagne comme puissance politique, mais également comme entité biologique, comme race, hein, avec le blocus qui a fait 700 000 morts parmi les civils, 1 million de morts parmi les civils si on compte l'Autriche-Hongrie. Donc, l'Allemagne se trouve dans une phase de dénatalité puisque elle sort de sa transition démographique et cela inquiète beaucoup les contemporains. Donc le diagnostic nazi, il est clair, on va mourir si on continue comme ça. Et si on continue comme ça, ça veut dire si on continue à faire ce que en pieux catholique ou en pieux protestant on a appris, c'est-à-dire soigner le malade, à respecter l'ennemi, à tolérer l'autre, à considérer qu'un juif converti n'est plus un juif, alors que biologiquement, il reste un juif. Attention, disent les nazis. Si on continue à faire la guerre comme on l'a faite pendant la Première Guerre mondiale, une phrase célèbre de Ludendorff, hein, du général Ludendorff, qui est compagnon de route important du parti nazi dans les années 20, et qui est d'ailleurs marié à Mathilde von Ludendorff, qui est une grande théoricienne de la scène völkisch, hein, de la scène ethno-nationaliste allemande, Ludendorff qui dit, voilà, on a perdu la guerre parce qu'on a été trop chrétien. Si on avait été un peu moins chrétien, on n'aurait pas perdu cette guerre. Bon, et ça, c'est très important à considérer. Donc, on va mourir si on ne prend pas en compte les enseignements de la biologie. Ces enseignements qu'il faut entendre tellement ils sont sidérants de vérité. Le darwinisme et le darwinisme social, pauvre Darwin, hein, qui n'en demandait pas tant, hein, lui qui s'est insurgé contre le darwinisme social en disant « Attention, ce que j'ai dit n'a rien à voir avec la société, moi je parle des animaux, des plantes, etc. Je parle pas de l'homme, hein, on n'est pas un animal comme un autre, mais personne ne l'a entendu parce que le darwinisme social était beaucoup trop utile à une Europe capitaliste et colonialiste qui avait trouvé avec le darwinisme social la théorie de sa pratique, en fait, pour parler en termes marxistes. Hein, la théorie de sa pratique. En l'occurrence, le darwinisme social permettait d'expliquer pourquoi le gros était au sommet de la société et dominait le faible, et pourquoi le blanc dominait le monde. Hein. Tout cela a été expliqué, évidemment, par la loi de la nature du darwinisme social. Donc il faut prendre en compte ces enseignements de la biologie, de l'éthologie, des sciences naturelles de manière générale, pour agir conformément à la loi de la nature. Le problème, disent les nazis, et ça c'est un des arguments de la loi du sang que tu as cité, c'est que le peuple allemand est normé par des lois qui sont des lois néfastes parce qu'elles le conduisent à la mort. Ces lois néfastes, ce sont le moralisme kantien, le droit positif tel qu'il existe depuis le code civil napoléonien et tel qu'il a été traduit en Allemagne par le BGB en 1900, par les présupposés du droit que sont l'individualisme, l'abstraction, toutes ces choses-là qui conduisent la race à la mort. Il faut revenir à la loi de la nature qui commande tout simplement, et tu le rappelais, et c'était la structuration là aussi trilogique ou ternaire de la loi du sang, cette loi de la nature qui commande de procréer beaucoup et bien, beaucoup, c'est-à-dire faire beaucoup d'enfants, mais en faire de bons enfants, hein, sans miction des sangs, sans dégénérescence. Procréer, combattre, puisque la vie est combat, et régner, une fois que le combat aura abouti à l'extermination de l'ennemi de race, eh bien la race germanique pourra régner. Pourra régner où ? Et c'est là qu'on voit l'importance des sciences naturelles. Le terme de Lebensraum, d'espace vital, que nous associons spontanément, en honnête homme et femme que nous sommes, au nazisme. Pour nous, espace vital résume la géopolitique nazie. Nous avons raison de dire ça. Sauf que espace vital en allemand se dit Lebensraum, et que le terme Der Lebensraum en allemand n'est pas du tout un terme ni nazi, ni politique, ni géopolitique, ni même géographique. C'est un terme des sciences naturelles. Der Lebensraum, c'est un terme qui est l'équivalent de Der Biotop. C'est le même mot, Leben, Bios, la vie, Topos, Raum, l'espace. Autrement dit, les nazis ont incorporé à leur vision du monde, à leur géopolitique, à leur géostratégie, un terme des sciences naturelles pour dire, attention, quand nous parlons de Lebensraum, nous ne jouons pas au dé et nous n'envisageons pas des options. Hein ? C'est une nécessité naturelle qui préside à notre action militaire et politique. Et il est parfaitement résumé, elle est parfaitement résumée, cette nécessité naturelle, par la devise que se donne une division de la Wehrmacht, dont j'ai oublié le chiffre, qui, à l'Est, combattant à l'Est, se donne pour devise
Der Russe muss sterben, damit wir leben. Le Russe doit mourir pour que nous vivions. Voilà la nécessité naturelle. Voilà ce que c'est que le biotope. Dans le biotope de la musaraigne, eh bien vous n'avez plus de moustiques. Voilà, c'est comme ça. Dans le biotope du germain, vous n'aurez plus de Slaves, sinon des Slaves ramenés à leur vocation naturelle, qui est celle d'être des esclaves de la race germanique.
C'est la... Comment, l'importance de saupoudrer de temps en temps du discours indirect libre. Je pense que c'était quand même important de revenir sur, comme tu l'as fait, sur le cœur de cette lecture. Ce qui occupait effectivement une large partie de.
Je dis un mot sur Platon.
Du précédent. Je refais la transition, c'est je refais le reboot de ma question. Donc si on en revient, donc maintenant que je pense que vous avez touché de manière très rapide et concise. Au cœur de cette lecture. Mais je pense qu'on a vu quand même des choses importantes. Dans cet ouvrage-là, tu montres comment ce que tu avais mis en place dans l'ancien ouvrage, comment ça va être appliqué sous cette forme de révolution culturelle, qui nous évoque le maoïsme, hein, évidemment, la révolution culturelle, mais à l'ensemble, quasiment à l'ensemble de la philosophie, à l'ensemble de la connaissance humaine, et donc, tout d'abord, à la philosophie grecque, et donc à Platon et au stoïcisme.
Alors, pour ce qui est de la philosophie grecque, les prolégomènes de cette histoire, c'est le premier livre que tu citais, Le nazisme et l'Antiquité, c'est que pour les nazis, les Grecs et les Romains sont des Germains. Hein, je vous demande d'accepter ça à titre de postulat, hein, pour comment dire, le bon déroulement de notre conversation. Donc les Grecs et les Germains sont des Romains, ce sont des Romains sont des Germains, voilà. Ce sont des tribus germaniques qui ont quitté leur nord natal pour émigrer vers le sud, et pendant que les Germains demeuraient, dans tous les sens du terme, au nord, et ne pouvaient pas se développer, eh bien les Germains du sud pouvaient opérer leur photosynthèse culturelle, hein, grâce à l'air clément de la Méditerranée, et créer donc philosophie, mathématiques, architecture, civilisation, droit, légion romaine, colisée, tout ce que vous voulez. Bon. Parthénon, tout ça. Ça avait une importance réelle pour les nazis, puisqu'il s'agissait tout simplement de redorer le blason de la race, en disant nos ancêtres ne sont pas des demeurés qui mangent de la viande crue et qui se tapent dessus à coups de gourdin. Ce sont c'est Échille, c'est Platon, c'est Octave Auguste. Et j'avais trouvé notamment un manuel d'anthropologie raciale de l'époque, hein, qui était intitulé Les cheveux blancs dans l'Antiquité. Hein, qui vous montrait que Octave Auguste, Alexandre le Grand, Périclès, Vénus, Apollon sont tous blonds aux yeux bleus, hein, c'est QFD. Voilà. Bien. Ceci étant posé, ce qui m'intéressait là dans cette histoire de philosophie grecque, moi j'aime bien la philosophie à titre personnel, ça m'a beaucoup intéressé, cette relecture de la philosophie grecque sous le Troisième Reich, ça m'a intéressé parce qu'on dit souvent que Nietzsche est l'intellectuel phare, hein, de la référence absolue sous le Troisième Reich. Pas du tout, pas du tout. Nietzsche, on a essayé de lui faire dire un peu tout et n'importe quoi, notamment sa sœur, une abominable bonne femme qui s'appelait Elisabeth Förster Nietzsche et qui était d'extrême droite et qui a tout fait pour nazifier, hein, puisqu'elle a vécu assez longtemps, pour nazifier son frère qui n'en pouvait mais. Nietzsche est inemployable parce que lorsque vous lisez un peu Nietzsche, vous vous rendez compte qu'il est philosémite, il est anti-allemand, enfin bon, c'est, pour un nazi, c'est un peu gênant. Bon. Donc vers qui se tourne-t-on sous le Troisième Reich? On se tourne vers Platon, figurez-vous. Platon, qui a tous les avantages. D'abord, c'est un germain, paraît-il. Bon. Ensuite, Platon, eh bien, c'est la référence des humanistes en pamoison, qui vont vous citer la philosophie grecque, l'humanisme, etc. Ben là, bam, vous retournez l'argument comme un boomerang en disant « Vous nous citez Platon, dont acte, ben regardez un peu ce qu'il dit. » Et selon les nazis, il dit des choses atroces. Et donc ça permet de conférer une forme de légitimité, de patine, à la fois philosophique, intellectuelle, culturelle, aux normes nazies, si vous voulez. Hein, ça, c'est une espèce de recours permanent de l'argumentation nazie que de dire, bon, effectivement, ce qu'on prône est un peu horrible, c'est vrai, bon, voilà. Mais par contre, regardez, Sénèque dit la même chose, Platon dit la même chose, donc voilà, c'est cachère. Il y a donc une espèce de reprise, de relecture, de réécriture de la philosophie antique, qui n'échappe pas d'ailleurs aux contemporains. Pour ceux qui sont versés dans la philosophie, vous connaissez peut-être l'ouvrage de Karl Popper, hein, « La société ouverte et ses ennemis », commencé en 1938. Popper, universitaire viennois, qui fuit l'Autriche en 1938 au moment où les nazis débarquent, et Popper qui incrimine comme premier ennemi de la société ouverte Platon. Alors, la première fois que j'ai lu ce livre, avant toute recherche là-dessus, je me dis quand même, il est gonflé, moi j'aime bien Platon, c'est pas gentil. Bon. Sauf que
Popper, dans les années 30, parle du Platon tel qu'il est lu, relu, réécrit à cette époque par quantité de gens qui écrivent des livres intitulés « La République de Platon et le combat d'Hitler ». Hein, c'est Joachim Bannes, un grand philosophe platonicien de l'époque, hein, qui publie, qui commet cet ouvrage au milieu des années 30, hein, « Platons Staat und Hitlers Kampf ». Bon. Avec une jolie croix gammée en couverture, au cas où on n'aurait pas compris que Platon était bien un germain et un nazi. Hein, bon. Avec une lecture totalement littéraliste de Platon, la métaphore des trois races, hein, le bronze, l'argent et l'or, les philosophes froids, etc., tout cela étant pris au sens littéral par les nazis et racialisé, biologisé. Bon. Il y a donc relecture et réécriture de cette histoire de la philosophie, et pour ce qui concerne le platonisme et le stoïcisme, il y a une mise en balance, ou plutôt une mise en opposition des deux visions du monde, hein, puisqu'il parle des philosophes également en termes de Weltanschauung, de vision du monde. Ce que Heidegger critique d'ailleurs à la même époque dans un article absolument cinglant qui est intitulé « L'époque des visions du monde ». Mais c'est une parenthèse pour rappeler que Heidegger n'est pas du tout le nazi qu'on croit. Hein, c'est, bon. Il n'est pas nazi d'ailleurs. Vous avez donc une mise en opposition des deux. Platon, c'est le germain. Il est grand, costaud, blond aux yeux bleus. On vous rappelle que Platon, c'est un surnom qui veut dire le costaud, justement. On vous rappelle qu'il a des traits réguliers, que, etc., etc. C'est un combattant germanique, une vigie de l'esprit nordique, je l'ai lu chez un platonicien. Et c'est quelqu'un qui est antidémocrate. Alors ça, c'est vrai. Hein. Là, pour le coup, les nazis l'ont pas inventé. C'est un antidémocrate absolu. Hein. La démocratie, c'est ce régime qui a tué Socrate, le meilleur des hommes. Et Platon est philo-spartiate, c'est un aristocrate. Il méprise la démocratie. Il a toute sa famille dans la tyrannie des 30. Enfin bon, ça, c'est vrai. Et de l'autre côté, disent les nazis, vous avez les stoïciens. Alors, autant Platon, c'est bien, parce qu'il est hiérarchiste, racialiste, raciste, antidémocrate, etc., autant les stoïciens, c'est mal. Et c'est mal parce que les stoïciens, c'est la cosmopolis. C'est la cité universelle, la civitas universalis, telle qu'elle est reprise par les empereurs romains à partir des Antonins, et notamment, horreur et damnation, par un empereur abominable qui s'appelle Caracalla, qui en 212 promulgue ce qu'on appelle la Constitutio Antoniana, la Constitution antonienne, qu'on appelle également l'Édit de Caracalla, qui donne la civitas romana, c'est-à-dire la citoyenneté romaine, à tous les hommes libres de l'Empire. Et alors ça, vous avez des pages épouvantables dans Alfred Rosenberg, notamment dans le mythe du XXe siècle. Alfred Rosenberg disant « Caracalla, ce bâtard racial, cet égout biologique », je cite, hein, ce bâtard racial, cet égout biologique, parce que c'est un Syrien matiné de juifs, d'asiates, d'arabiques, de négroïdes, etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il le dit. Ce bâtard racial, cet égout, ce cloaque biologique, a inauguré par l'édit qui porte son nom, qui donne la citoyenneté à tous les hommes de l'Empire, a inauguré le chaos racial, Rassenchaos, avec la mise en pratique de l'idéal stoïcien de la civitas universalis. Par ailleurs, les stoïciens, et c'est là-dessus que repose leur projet de cité universelle, accordent de manière assez généreuse la raison à tous les êtres humains. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Platon, en tout cas de manière un peu différenciée ou différentielle. Et donc, chez les nazis, il y a une claire opposition de race et d'idéologie, mais c'est la même chose. Parce que biologie, idéologie, l'idéologie est produite par la biologie. Vous avez un type nordique qui produit une idéologie raciste, hiérarchiste et antidémocrate, c'est Platon. Et vous avez des bâtards raciaux, puisque dans tous les manuels de philosophie de l'époque, vous avez des analyses raciologiques des stoïciens. On vous montre que ce sont des Asiates, que ce sont des négroïdes, que ce sont des sémitiques, que ce sont des machins, etc., qui sont mélangés, et qui donc, étant d'une biologie dégénérée et mélangée, produisent de la dégénérescence intellectuelle. En l'occurrence, comme ce sont des sangs mêlés, ils ne vont pas exalter les hiérarchies, ils ne sont pas fous. Ils vont exalter ce qui sert leur intérêt biologique, c'est-à-dire une forme d'équanimité raciale universelle. L'homme bien-né, Platon, va prôner la hiérarchie parce qu'il est tout en haut. Il sert son intérêt biologique, il sert sa race. Le mélanger, le stoïcien, va prôner l'égalité des hommes, l'universalisme, etc. Et un rejeu de tout cela, c'est évidemment le christianisme. Ce christianisme qui, pour les nazis, est du bolchevisme. C'est du communisme, le christianisme. Et ils sont pas loin d'avoir raison, du point de vue, si on écoute un peu le message de Jésus. Hein, ils sont pas loin d'avoir raison. Et eux argumentent en disant, voilà, le christianisme, c'est le bolchevisme de l'Antiquité, comme le bolchevisme contemporain, c'est une idéologie égalitariste et universaliste, qui détruit les hiérarchies raciales.
Autant pour Platon. Là où je trouve ça très intéressant dans la suite du livre, c'est quand tu t'attaques au droit romain, ou plus exactement à la vision nationale-socialiste du droit romain. Parce que vous allez voir, il y a le même type de tentative de révolution culturelle, de retraduction raciale d'une philosophie antique, mais à la différence de la ligne claire qui existe entre le bon Platon et le mauvais les stoïciens, on voit que dans le droit romain, la référence est tellement forte. Tu dis la référence et la révérence, mais le respect envers le droit romain est tellement fort que c'est beaucoup plus difficile de le racialiser. Et donc, tu pourrais nous dire un petit mot, en un tout petit peu plus rapide, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout traiter, de cette lecture nazie du droit romain.
Oui. Bah, alors, bon, déjà, il faut préciser que l'Allemagne, c'est un pays de juristes. Hein. C'est un pays de juristes. Le surmoi allemand, c'est un surmoi juridique. Voilà, et c'est comme ça. Nous, le surmoi, il est plus du côté des grandes écoles qui n'existent pas en Allemagne. Lorsque vous voulez faire carrière en Allemagne, vous faites du droit, vous faites une thèse de droit et tout s'ouvre. Hein. L'équivalent du polytechnicien, du normalien ou de l'énarque en Allemagne, c'est le juriste. Voilà. Et de fait, la hiérarchie nazie est truffée de juristes. Partout. Ils sont partout, à tous les étages, évidemment, de la hiérarchie nazie. Et ces juristes-là sont un peu embêtés parce qu'ils ont bien lu le programme du parti qui, dans son point numéro 19, dit « Nous voulons remplacer le droit romain par un droit germanique ». Bon, alors, droit germanique, on ne sait pas très bien ce que c'est, les nazis non plus, mais en tout cas, ils en parlent beaucoup. Et supprimer le droit romain, alors ça, c'est une vieille querelle entre juristes qui date du 19e siècle, hein, la querelle, justement, de la querelle du droit romain. Est-ce qu'on doit reprendre le droit romain? Est-ce qu'on doit codifier ou pas? Est-ce qu'on doit ressusciter les traditions orales de common law germanique? Bon, ça occupe beaucoup le monde des intellectuels et des juristes au 19e siècle, au moment où l'Allemagne s'unifie politiquement et songe à se doter d'un droit, en l'occurrence à se doter de codes. Hein. Et tout cela rejoue évidemment sous le nazisme, avec des juristes qui investissent massivement l'appareil du parti et l'appareil de l'État. Évidemment, à la fin des années 20, de manière beaucoup plus massive, puisque le succès venant au secours de la victoire, il faut se placer hein, pour faire carrière. Et ces juristes se trouvent un peu embêtés, parce que ils savent le caractère anti-juridique proclamé des chefs nazis qui n'ont pas fait les grandes écoles, en l'occurrence. L'équivalent de « moi, je suis pas énarque » en Allemagne, c'est « moi, j'ai pas fait de droit ou j'ai pas fait de thèse de droit ». C'est ce que dit Hitler hein, devant les ouvriers de Siemens en septembre 1933. « Je suis votre Führer alors que j'ai même pas fait de droit. Ich bin nicht einmal Jurist. Je suis même pas juriste. » L'équivalent, ce sera en France « moi, j'ai pas fait l'ENA. Je suis dévot, je suis du peuple, etc. » Alors, les juristes sont un peu embêtés parce qu'ils ont une formation... vous prenez Hans Frank, par exemple, vous prenez Roland Freisler, vous prenez Wilhelm Stuckart, vous prenez toutes ces têtes pensantes de l'État et du parti nazi. Ces gens-là ont une formation juridique, ils ont une thèse de droit, et ils vont un peu essayer d'aménager le discours anti-juridique nazi en disant, voilà, il y a deux types de droits, il y a le mauvais, il y a le bon. En fait, plutôt, il y a la loi versus le droit. La loi, c'est mal. La loi, c'est juif, c'est romain tardif, c'est décadent. La loi, c'est abstrait, individualiste, alors que le droit, ça c'est bien, le droit c'est concret et communautaire, pour aller très vite. Hein. Et le droit c'est simple, il n'y a pas besoin de faire d'études pour faire du droit, hein, pas besoin de faire l'ENM par exemple. Le droit c'est tout simplement l'instinct sain de la race. Voilà. Vous êtes de bonne race, et bien vous êtes juriste. Alors, les nazis ne vont pas dire juriste, juriste c'est du latin. Hein. Ils vont dire Rechtswahrer, hein, comment dire, protecteur du droit. Hein, Rechtswahrer, ou celui qui a le soin du droit, qui a en charge le droit. Et chacun est juriste, d'où l'obsession des nazis pour les jurés populaires. Hein. Pas que Rachida Dati, hein, qui était obsédé par ça, il y avait aussi les nazis. Les jurés populaires, donc réduire la part des magistrats professionnels au profit eh bien, du quidam, qui lui-même est juriste sans le savoir. Comme M. Jourdain, avec la prose, bien entendu. Parce qu'il est d'instinct sain. Dans ce contexte-là, donc, les juristes de profession, de formation, qui se font tout petits, mais qui, par ailleurs, occupent des positions dominantes, vont dire, voilà,
Le droit tel qu'il est bon de le préserver, de le développer, c'est un droit qui est biologique, qui est sain, qui est favorable à la race, et qui n'a rien à voir avec ce droit romain que nous connaissons et qui a été introduit en Allemagne dans les fourgons de l'évangélisation, dans les fourgons de la féodalisation entre, on va dire, le 6e et le 14e siècle. Voilà. Ce droit qui a introduit le clergé, qui a introduit l'Église, hein, in utro coiure dans l'un et l'autre droit, le droit canon et le droit civil. Ce droit qui a introduit la médiation féodale, etc. On va faire donc la différence entre le droit romain des origines, qui était un droit germanique, puisque les Romains étaient des Germains, la loi des 12 tables, ça c'est bien, hein, un patriarcat absolu, une paternitas redoutable qui peut tuer ses enfants, tuer sa femme, ça c'est bien, ça c'est germanique. Mais alors par contre, le corpus juris civilis de Justinien, ça c'est du dégénéré, ça c'est du tardif. Et dans les manuels de droit, vous avez là aussi des expertises raciologiques des rédacteurs du code justinien. Les juristes ulpiens et papiniens, on vous rappelle qu'ils sont syriens. Hein ? Comme quoi les Syriens étaient un problème déjà à l'époque. On vous rappelle qu'ils sont syriens, matinés de juifs, hein, bref, en tout cas, assez patibulaires et peu recommandables. Et ils ont donc produit des normes qui servent là encore leur race ou leur non-race, qui servent leur intérêt biologique et qui desservent évidemment l'excellence raciale nordique.
Alors tu disais effectivement... tuer sa femme, c'est germain. D'ailleurs, on peut rappeler que ça marche aussi dans d'autres pays encore à l'heure actuelle. Assez bien. Merci au sexisme. Mais ça amène à un chapitre assez intéressant et que je trouve vraiment, vraiment important dans le livre, où tu nous parles finalement moins donc de la loi ou même du droit, mais de la norme, et notamment de ce que écrivent les nationaux socialistes sur le mariage, sur la procréation, sur le sexe. Alors c'est loin d'être publicitaire ou marketing, mais de se dire que les nazis vont jusqu'à remettre en cause l'institution du mariage, l'institution, on peut dire, de la fidélité dans le couple, au profit d'une lecture raciale. Alors est-ce que tu pourrais nous dire un mot de ça, de cette relecture de la norme de l'amour, du couple, par les nationaux socialistes ?
Alors, si on part des faits, il y a entre l'été 1944 et l'hiver 1945 tout un échange, navette, entre la chancellerie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, pour élaborer un projet de loi. En l'occurrence, bon, ce serait un décret-loi, puisqu'il n'y a plus de... Le Reichstag est réuni de temps en temps par acclamation, mais voilà, il n'a plus de force législative. Hein, c'est depuis la loi d'habilitation de 1933. Et un projet de loi, donc, qui vise à rétablir, je cite, hein, « rétablir la polygamie germanique bon. ». Alors, ça, c'est une vieille idée des Völkisch, hein, des ethno-nationalistes depuis le 19e siècle, et qui est accentuée, rigidifiée, portée à incandescence un peu par le contexte post-Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a montré aux racistes, du monde entier d'ailleurs, hein, pas qu'en Allemagne, qu'il y avait eu un phénomène contre-sélectif terrible. Beaucoup de morts pendant la Première Guerre mondiale, mais les meilleurs sont tombés. Voilà. Parce que les planqués sont les plus lâches, les plus faibles, eux sont restés à l'arrière et ne sont pas tombés au combat. Ceux qui se portent en avant, ce sont les meilleurs, ce sont eux qui tombent. Résultat, la guerre est mauvaise parce qu'elle est contre-sélective. Les nazis ne sont pas si bellicistes que ça, au fond. Hein. Ce sont de grands pacifistes. Alors, ils ont leur conception tout à fait particulière et originale de la paix des cimetières pour les autres, c'est certain, mais de la même manière qu'on dit que les nazis sont totalitaires parce qu'étatistes, non, ce sont des anti-étatistes convaincus, hein, convaincus. Dans ce phénomène post-Première Guerre mondiale, de grande peur démographique, à la fois quantitative et qualitative, eh bien, la norme de la monogamie est remise en question. Alors, norme morale, religieuse et norme juridique, hein, au titre du Code civil allemand. Elle est remise en question de manière très brutale, mais bon, il est coutumier de la chose, par Himmler, hein, le chef de la SS, le Reichsführer SS, qui, en octobre 1939, c'est-à-dire au moment, après le début de la guerre contre la Pologne, édicte pour ses hommes, alors ses hommes, c'est-à-dire beaucoup de monde, hein, Zippo SD, police, Waffen-SS, bon, il édicte pour ses hommes ce qu'on appelle un Zeugungsbefehl, un ordre de procréation, un ordre de procréer. Et cet ordre dit, au fond, voilà, on est en guerre, les gars, on va bientôt manquer de sang, faites des gosses, par tous les moyens. Partout où vous pouvez, vous procréez. évidemment hors mariage, parce que partout où vous pouvez, bon, une forme d'état de nécessité biologique et démographique qui légitime tout. Alors cela a conduit à des protestations au sein de l'armée, parce que comment dire, au niveau de la Wehrmacht, l'hiérarchie de la Wehrmacht se dit bon, bah, ça y est, pendant que nos hommes sont au combat, les flics derrière vont aller procréer avec leurs femmes, ça se fait pas. Et donc il y a des débats assez cinglants et une prise de position de Rudolf Hess. C'est pas n'importe qui, Rudolf Hess, à l'époque, hein, avant qu'il prenne l'avion pour l'Écosse, c'est quand même le numéro 2 du régime, officiellement. Et Rudolf Hess intervient dans la presse en disant « Mais Himmler a raison, il faut faire des enfants quelque manière que ce soit. » Et cette idée-là revient à l'été 1944, dans un contexte démographique autrement plus grave. Parce que là, ce n'est plus seulement les morts de la Grande Guerre, mais vous avez également 2 500 000 morts hommes supplémentaires à l'été 44. Il va y en avoir 2 500 000 supplémentaires encore jusqu'au printemps 1945, mais l'hémorragie de sang masculin est atroce. Donc, il y a, en pure logique arithmétique, hein, il y a un déséquilibre du ratio démographique entre hommes et femmes, trop peu d'hommes pour trop de femmes, donc polygamie. À cela s'ajoute l'argumentation, on va dire, que développait déjà Schopenhauer, hein, qui est que, en termes de procréation, une femme est moins performante, en termes de performance, c'est important chez les nazis, hein, moins performante qu'un homme, puisque 9 mois d'immobilisation, alors qu'un homme, c'est 10 minutes. Voilà, en gros. Et ça, c'est mis en pratique, et c'est mis en pratique par des gens du premier cercle d'Hitler. Je pense à Martin Bormann, par exemple. Hein, qui est le chef de la chancellerie du Reich. Martin Bormann, il a 18 enfants. 18. Il en a 10 avec madame, il en a 8 à côté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que madame est au courant et qu'elle l'encourage. Martin Bormann est souvent absent parce qu'il est souvent avec Hitler à Rastenburg ou dans d'autres QG. Et donc, il écrit à son épouse, « Voilà, ma chère, je ne sais plus comment elle s'appelle. » Tu le sais peut-être, elle s'appelle comment, Madame Bormann?
Ça, je ne sais pas.
Gerda.
Non, c'est pas ça? Gerda Bormann?
Je sais pas.
Ma chère Gerda, on va dire Gerda. Voilà, écoute, là je suis à Rastenburg, voilà, on fait la guerre, tout ça. J'ai rencontré une actrice, elle est super. Hein. Elle est magnifique, elle te plairait beaucoup. Je pense que je vais me la faire. Réponse de l'épouse. Mon cher Martine, vas-y, là je suis enceinte, je sers à rien, engrosse-la. Hein, je cite, hein, « Engrosse-la, ça fera des enfants pour le Führer et pour le Reich, et puis une fois qu'elle sera enceinte, tu reviendras vers moi, après l'accouchement, etc. » Voilà. Himmler s'est connu également à deux familles, une avec, je ne sais plus comment elle s'appelle non plus, Magda, je crois, et puis l'autre avec sa secrétaire, c'est assez banal, mais il a installé sa secrétaire avec les deux enfants qu'il a eus d'elle à Hohenlüchen, dans le centre SS au nord de Berlin, et Hitler est parfaitement au courant. Et alors, donc il y a une pratique de cette... pratique de cette sexualité-là, cette démographie-là, et cette pratique doit devenir théorie, et c'est là qu'interviennent les juristes pour dire « mais oui, dans les forêts, ça copulait dans tous les sens, il n'y avait pas de monogamie. » Et pourquoi y a-t-il eu monogamie ? À cause des juifs. C'est les juifs. La monogamie, c'est une norme chrétienne, c'est-à-dire judéo-chrétienne, c'est-à-dire juive. Voilà. La démonstration est absolument imparable. Les juifs sont arrivés sous la guise, sous le déguisement des évangélistes chrétiens, pour assécher la race nordique, pour la tuer dans l'œuf, en l'occurrence, pour empêcher qu'elle fasse des enfants. Et ça a marché pendant 1500 ans, disent les nazis, maintenant c'est terminé, on va opérer une révolution culturelle, au sens de retour, de salto arrière vers l'origine, on va revenir à la prime inspiration et au premier instinct de la race nordique, qui est de faire des enfants partout où on peut et autant qu'on peut. Parce que la vocation de la race germanique nordique, selon les nazis, elle est simple, hein, c'est de produire de la substance biologique. C'est faire des gosses, beaucoup de gosses, et produire les nutriments qui vont permettre la croissance de la race. En l'occurrence, être parent et être agriculteur. Voilà la vocation de la race nordique, et son génie à cette race lui permet ensuite de dégager du temps, après une accumulation primitive de capital biologique et agricole, pour créer de la culture, et c'est pour ça qu'elle a créé la civilisation grecque, romaine, qu'elle a enfanté Jean-Sébastien Bach, Hegel, et Nietzsche et Joseph Goebbels.
Alors, comme vous pouvez le voir, le titre de l'ouvrage se justifie totalement, parce qu'on est face, avec cette révolution culturelle, à un ébranlement d'une grande partie des fondements de ce qui constitue... l'identité culturelle occidentale depuis des dizaines d'années, depuis des centaines d'années, voire un peu plus. Peut-être un dernier point, il me reste deux questions. Une de ces remises en cause fondamentales, c'est celle de, et je trouve que ça donne une clé de lecture très intéressante par rapport à la conception du monde nazi, c'est celle de l'universalisme, justement dans lequel nous avons tous et toutes été élevés, cet universalisme. Et on peut le percevoir, cette lecture, à travers la lecture de Kant. Kant, qui va devenir, dans les mains des nazis, encore une troisième, quatrième relecture, après celle de Platon qu'on a vue, celle du droit romain, mais cette relecture de Kant que les nazis vont réussir à annexer, est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ?
Oui, alors Kant pose un problème évident aux nazis dans leur dans leur enluminure culturelle. Kant est incontournable. Hein. Vous avez des espèces de monuments comme ça de la culture germanique dont on ne peut pas faire l'économie. Vous avez Frédéric II, vous avez Bismarck, vous avez Bach, vous avez je sais pas quel autre, Beethoven, et vous avez Kant. Voilà. Bon, ouais. Parce que tout le monde le connaît, parce que bon, personne l'a lu, mais c'est un génie. Enfin bon, voilà. Et de fait, moi, j'ai pisté, traqué les traces de Kant dans l'univers nazi, et notamment vu tous ses documentaires sur l'Est, hein, Der Deutsche Osten, l'Est allemand, Königsberg, la Prusse orientale, Ostpreußen. Et à chaque fois que vous avez un documentaire type découverte du monde, si vous voulez, de l'Est allemand, évidemment, on s'attarde beaucoup à Königsberg, et à Königsberg, on s'attarde la moitié du temps sur les traces de Kant. Bon. On n'en dit rien, mais on dit qu'il est génial, et que c'est un grand allemand, et que c'est la lumière de la pensée à l'Est. Bon. Alors, voilà pour le monument culturel devant lequel on fait de pieuses génuflexions, parce que c'est un génie. Alors ensuite, quand on se plonge, comme Nietzsche, hein, quand on se plonge vraiment dans ses œuvres, ça devient plus problématique. Mais moi, ce qui m'avait un peu intéressé, c'est de là que Hannah Arendt part, hein, Jérusalem 1961, c'est que Kant, qui n'a pas fait... Eichmann, quel lapsus. Eichmann, qui n'a pas fait d'études secondaires, hein, il s'est arrêté au collège, en gros, au collège technique, est capable, devant la cour, à Jérusalem, capable de citer une définition de l'impératif catégorique qui est bonne, qui est presque exacte. Et ça, Hannah Arendt, quand même un peu stupéfaite, et elle ne se l'explique pas. Alors moi, j'ai essayé de voir, je me suis dit, bon, alors, voilà le parcours d'Eichmann. S'il n'a pas fait le lycée, c'est qu'il a dû apprendre ça après, soit par des lectures personnelles, soit par l'éducation idéologique. Donc je suis allé voir dans les manuels de fonctionnaires de la fonction publique, dans les manuels de droit administratif, dans les fascicules de formation idéologique de la SS, de la police, du SD, etc., toute institution que Eichmann a fréquentée, je suis allé voir si on parlait de Kant et s'il y avait des formulations d'impératif catégorique. Eh bien, j'en ai trouvé des dizaines. Et notamment une qui me semble paradigmatique de la manière nazie de réemployer Kant, malgré lui, qui est une manière assez formulaire, en fait. On retient de Kant la formule, le buste, l'image, que l'on vide totalement de sa substance, parce que quand on rentre dans la substance, Kant est par définition anti-nazi. C'est-à-dire, il est universaliste, il est cosmopolite. Bon, les nazis sont particularistes et anti-cosmopolites au possible. Et voilà la définition que j'ai trouvée dans un manuel de droit administratif, Das Handbuch des Deutschen Beamten, hein, le manuel du fonctionnaire allemand, dirigé par le juriste professeur Dr. Hans Frank, qui avait été avocat du parti nazi dans les années 20, qui est nommé professeur en 1933 et qui est nommé gouverneur général de Pologne en 1940. C'est 40 ou ça, c'est, ouais. 39. Je me demande, en fait, je crois que c'est...
26 octobre 39,
voilà. Il est nommé gouverneur général de Pologne. Et donc, Hans Frank donne cette définition d'impératif catégorique, je cite, « agit toujours de telle sorte », alors là, on reprend la formule, hein, kantienne, « agit toujours de telle sorte que le Führer », là, c'est moins kantien, du coup, « que le Führer, s'il avait connaissance de tes actes, l'approuverait ». Génial. C'est-à-dire, on reprend la formule, un peu comme les nazis multiplient les décalogues, hein, la formule décalogique est constamment réemployée parce qu'on l'a apprise au catéchisme, parce qu'elle est familière. Là, on reprend l'impératif catégorique parce qu'on l'a entendu à l'école, chez le pasteur, etc. Et on y met à l'intérieur quelque chose qui n'a rien à voir avec Kant. En l'occurrence, Kant, c'est l'autonomie, parce que c'est agit toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse devenir une loi universelle. C'est l'autonomie et c'est l'universalité. Or là, on a l'hétéronomie, c'est pas la raison qui décide, c'est le Führer. Je suis hétéronome, je suis aliéné par la volonté de quelqu'un d'autre. C'est anti-kantien au possible. Et c'est strictement particulariste, parce que c'est le Führer du peuple allemand
qui m'ordonne de servir les intérêts du peuple allemand. Donc on reprend la formule et on bousille totalement le fondement de l'enseignement de Kant. Voilà un exemple de relecture, de travestissement d'un pauvre Kant auquel on fait plus que tordre le bras, on tord les quatre membres en fait, hein, dans cette histoire, et on l'utilise parce que de philosophe de l'autonomie et de la liberté qu'il est, on en fait le philosophe de la subordination, du caporalisme et du suivisme. Hein. L'œil qui est au-dessus de moi, c'est pas celui de la raison universelle, c'est pas celui de la mathématisation de l'acte moral. L'œil qui est au-dessus de moi, c'est celui du Führer. Et ça rejoint, quand on parle de particularisme, ça rejoint la définition que Hans Frank donne du droit. Hein. Hans Frank, grand juriste, qui dit le droit, c'est ce qui sert le peuple allemand. Donc nous qui vivons dans un univers universaliste, déclaration universelle des droits de l'homme, etc., proclamation des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour l'humanité entière, les nazis balayent tout ça en disant non, l'universalisme, ça sert les faibles, ça sert les mauvais, ça sert nos ennemis. Revenons à l'instinct de la race, qui est que je me défends moi, ma biologie, mon corps, mes gosses, ma famille, ma race. Le droit, dit Hans Frank, c'est ce qui sert le peuple allemand, point barre. Autre traduction de cette phrase, Recht ist was, etc., est juste ce qui sert le peuple allemand. Et vous voyez le potentiel de légitimation infinie de cette phrase, qui fait que si vous abattez un enfant au bord d'une fosse, si ça sert le peuple allemand, c'est moral. Et c'est légitime en morale et en droit.
Ce qui malheureusement fait une transition pour la dernière question et peut-être nécessairement le passage le plus dur du livre. Vous l'avez senti dans l'ensemble de l'exposé. Il y a une figure qui permet de tenir l'ensemble de l'immeuble idéologique. Là, on a vu que finalement la partie positive, ce que doit être le bon germain, la philosophie racialisée, etc. Mais il y a un ennemi. Et cet ennemi, évidemment, c'est le peuple juif. Effectivement, la biologisation du politique va toucher peut-être avant tout la lecture de l'ennemi, celle du juif, et les moyens qu'on doit apporter face au problème juif. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots ?
Ben là aussi, il faut un petit semestre pour en parler. C'est pas toi qui as travaillé sur Kruger qui va me démentir.
3 minutes.
3 minutes, merci. Comment dire ? Bon, on va commencer par l'évidence. Pourquoi les Juifs ? Pourquoi les Juifs ? Parce que les nazis ont radicalement aucune imagination. Tout ce que je vous dis là et tout ce qu'ils disent eux sont des choses, c'est du réemploi, comme on dirait en archéologie. Hein. C'est des pierres qu'on a réemployées. Le racisme nazi, l'antisémitisme nazi, le capitalisme nazi, l'impérialisme, le darwinisme social, l'eugénisme, tous ces ismes-là sont des ismes qui sont tout à fait, en bonne société dans l'Occident de la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e. Hein. Ce sont des idées assez communément partagées, mais que les nazis, dans un contexte particulier, celui des années 20, mettent en cohérence, radicalisent et surtout mettent en pratique de manière très brutale et très immédiate à partir de 1933. Alors, pourquoi les Juifs ? Parce qu'ils n'ont aucune imagination et que le Juif est, depuis 1500 ans en Occident, la figure de l'altérité. Alors, depuis, il y en a eu d'autres qui les ont remplacés de manière assez heureuse, mais jusqu'au 19e siècle, on va dire, la figure de l'altérité, la figure de l'autre, la figure potentiellement de l'ennemi au sein de la cité, hein, c'est pour ça qu'on le cantonne à des zones de ghetto, c'est ce qu'on appelle le Juif. Bon. Alors, les nazis, évidemment, bâtissent leur antisémitisme, nourrissent leur antisémitisme, des traditions qui les dépassent largement. 1500 ans d'anti-judaïsme, puis d'antisémitisme chrétien, ça c'est une évidence. Ils se nourrissent également de toute la science du 19e siècle, qui a fait des juifs non seulement une entité culturelle, religieuse, autre, le peuple déicide, celui qui a tué le Christ, etc., mais également une entité biologique. Hein. Le racialisme et le racisme scientifique du 19e siècle s'est emparé de ce qu'on appelle « Jüdische Frage », la question juive, pour racialiser cette question et dire que les juifs n'étaient pas seulement une altérité culturelle, mais une altérité biologique absolument irréductible. D'où l'interdiction de la miction des sangs. Les Noëls du Nuremberg, hein, le code civil de 1935, ne plaisante pas, hein, puisque pour la première fois en droit civil, on introduit un terme de droit martial ou de droit de la guerre en droit civil, en parlant de trahison.
Si vous couchez avec un juif, ou si vous mariez avec un juif, c'est du Rassenverrat, de la trahison raciale, de la trahison biologique. Hein, c'est quand même... Parce qu'il y a une guerre des races. Donc il y a trahison. Donc les juifs ont été victimes, stigmatisés, etc. Les nazis reprennent cette idée-là, qui a été portée à incandescence, là encore, par la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et cette défaite absolument incompréhensible, qui ne pouvait se comprendre que par le complot judéo-bolchevique, etc. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les nazis étant des garçons, souvent des garçons d'ailleurs, pour les formulateurs de l'idéologie, hein, des garçons assez littéralistes, d'où leur manque radical d'humour. Cherchez pas d'humour chez les nazis, il n'y en a pas. Ce sont des littéralistes convaincus qui lisent les choses au pied de la lettre. Et quand ils biologisent, ils biologisent. Si le juif est une altérité biologique, eh bien, on va le définir comme un microbe, un virus, un bacille, etc. Et cette rhétorique-là, qui est celle des antisémites médicalisés du XIXe siècle, des antisémites inspirés par le progrès des sciences naturelles au XIXe siècle, cette rhétorique-là d'antisémitisme radical est prise au pied de la lettre par les nazis. De fait, les juifs, ce sont des bacilles, ce sont des virus, ce sont des microbes. Autrement dit, quand on dit parfois dans les manuels les nazis considèrent les juifs comme les sous-hommes, pas du tout. Pas du tout, du tout. Les Slaves, oui, bien sûr. Nos nègres blancs, dit Himmler. Les Slaves sont nos nègres blancs, nos esclaves. Mais les juifs, pas du tout. Ce ne sont ni des hommes, ni des sous-hommes, ni des animaux. Ils participent, par leur essence biologique, d'une radicalité absolue. En l'occurrence, celle du microbe, du bacille, etc. Et dès lors, il faut traiter cette altérité comme il se doit, c'est-à-dire non pas humainement, mais médicalement. D'où, non seulement l'habillage, mais ça va au-delà de l'habillage, parce qu'il ne s'agit pas seulement de décorum. D'où l'imprégnation médicale absolue des procédures nazies de contingentement, de parquage, de marquage, de mise à l'écart et d'assassinat des juifs. Et ça, c'est dans le dernier chapitre, effectivement, que je le montre. C'est de manière très explicite que les juifs sont considérés comme une maladie à éradiquer en tant que telle. Les ghettos, ce sont pas des ghettos, les ghettos. Ce sont des zones de quarantaine, figurez-vous. Des zones de quarantaine. Parce que les juifs sont contaminants, par définition. Vous avez, à partir de décembre 1940, en prévision de l'opération Barbarossa, hein, d'attaque contre l'Union soviétique, toute une série d'ordres édictés à l'attention de la Wehrmacht, de la Waffen-SS et de la ZIPO-SD, de la police, et également des fonctionnaires civils. Ces ordres sont des ordres de nature médicale, qui entretiennent une psychose biologique. Et ces ordres disent des choses comme « faites bouillir l'eau, faites bouillir les légumes, ne touchez pas les gens, n'acceptez jamais de ce qu'on vous donne, ne touchez pas les poignées de porte, ne touchez pas les bras de pompe. » Tout est contaminé à l'Est. Tout. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que pour ouvrir une porte sans toucher une poignée, il y a un moyen formidable qui s'appelle le lance-flamme, figurez-vous. Et l'usage massif du lance-flamme, à mon avis, est lié à cette espèce d'imaginaire sanitaire prophylactique d'ordre panique qui habite les conquérants allemands à l'Est, qui estiment que tout est contaminé et tout est virulent. Hein. Et cette virulence-là, il faut la traiter médicalement par la fumigation, hein, par le gazage et par la flamme. Et tout cela, ce sont des... Alors, il faudrait développer, parce que là, je brosse à grands traits, mais dans le chapitre, je développe beaucoup plus en détail la médicalisation des procédures employées pour combattre le fléau, hein, fléau biologique.
Ce qui nous offre une conclusion, comme j'avais prévu, effectivement, qui termine cette immersion dans l'imaginaire national-socialiste, dans les types de pensées qui ont pu motiver des types d'actes. Et on voit quels actes. Merci d'abord à notre intervenant, Johan. Merci à vous d'être venu.